de tout temps, on a essayé de classer les nuages. Les Grecs l'ont fait. Ça a également été tenté au Moyen-Âge, pendant la Renaissance. Et puis, il y a un personnage qui sort du lot. C'est un Anglais. Il n'est pas météorologue. C'est un botaniste dans sa formation qui s'appelle Luke Howard. Et en 1803, il fait une conférence dans laquelle il propose une classification des nuages. Alors, ce qui fait très original à plus d'un titre. D'abord, il utilise le latin. Le latin, c'est un gros avantage, c'est une langue universelle. Les savants allemands, italiens, anglais, français le comprennent. Donc, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Que par ailleurs, il classifie comme le font les naturalistes de l'époque. Très important, avec des genres, des espèces, sous-espèces, des variétés. Et il utilise un vocabulaire qui est simple et il combine des mots. Et donc tout tourne autour d'un petit vocabulaire, entre guillemets, autour de mots comme cumulus, cirrus, stratus, nimbus ou bien alto, qui signifie nuage moyen. Et donc à partir de là, en combinant les mots, eh bien il arrive à décrire pratiquement tous les types de couvertures nuageuses. C'est remarquable. Il a de la chance parce qu'il va faire des émules. Bien sûr, le fait d'utiliser le latin va le rallier et va faire qu'il aura la cote avec tous les autres scientifiques. Mais surtout, il y a un personnage en Allemagne qui découvre son travail et qui l'admire, c'est Goethe. Goethe n'est pas seulement un écrivain et un homme politique, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la science. Et donc, il découvre les travaux de Howard et dit « mais c'est fantastique » et il devient le passeur de Howard puisqu'il va traduire en allemand ses écrits, ce qui évidemment va contribuer à sa notoriété. Ce que le travail de Howard a permis de faire, c'est un catalogue, un atlas des nuages où on part de 10 nuages principaux. Et donc, à partir de ces 10 formes de nuages, après, on décline et on obtient finalement, en tout, une centaine de types de nuages.
Ah oui, finalement, moi, c'est pas bête, hein, utiliser le principe de la systématique animale ou végétale et le latin pour nommer les nuages.
Oui, tout à fait. Et même si on ne maîtrise pas le latin, on peut facilement retenir que stratus ou strato signifie étendue ou couche. Que cumulus, par exemple, ou cumulo, signifie un amas. Et cirrus ou siro signifie non pas une boisson, mais un filament, quelque chose de fin. Un dernier détail, le terme alto, c'est un piège parce qu'il en faut toujours. Dans le cas des nuages, ça désigne les nuages de l'étage moyen. Donc, grâce à ça, on a 10 genres principaux de nuages que Philippe Jeanneret mentionnait. Et les espèces, elles, vont décrire la structure du nuage. Un cumulus humilis est plus large que haut, comme un mouton en bonne santé. Et un cumulus médiocris est aussi large que haut, comme un chou-fleur en bonne santé aussi.
C'est tout bon, je vais déjà pouvoir briller pendant mes conversations sur la pluie et le beau temps, rien qu'avec ça.
Voilà, et puis une fois qu'on a défini le genre et l'espèce du nuage, on peut identifier des variétés. Alors les variétés vont décrire la transparence du nuage, qui pourra par exemple être opacus, opaque, ou bien translucide. Et les variétés désignent aussi parfois l'agencement des nuages. S'ils sont rangés en ligne bien régulière, ça arrive parfois quand les nuages se forment de manière parallèle au vent, la variété sera très probablement radiatus.
Mais finalement, c'est quand même assez simple. On classe les nuages en fonction de leur aspect et de l'altitude à laquelle ils se trouvent.
Voilà, exactement. Il faut savoir que les nuages se forment dans la troposphère. C'est la partie basse de l'atmosphère, celle qui est la plus proche de nous. Et les scientifiques divisent cette troposphère en 3 étages. Alors, sous nos latitudes, l'étage inférieur va depuis la Terre jusqu'à, en gros, 2 km. Ensuite, il y a l'étage moyen qui va de 2 km à 7 km de hauteur. Et puis, finalement, il y a l'étage supérieur de la troposphère qui va jusqu'à environ 14 km de hauteur.
Bon, d'accord, mais quand je lève néon l'air, que je vois un nuage, comment sais-je si je regarde l'étage bas, l'étage moyen ou l'étage supérieur de la troposphère?
Alors, c'est là, à mon avis, que ça révèle la nature espiègle des nuages.
En plus.
Oui, c'est en voyant en fait la forme du nuage que vous arrivez à déterminer à quelle altitude il se trouve. Les cirrus sont filamenteux. Ils se trouvent à l'étage supérieur de la troposphère. Il fait froid à ces altitudes, il y a du vent et ils ont un air un peu figé et pratiquement gelé. Et puis, quand vous voyez dans le ciel un nuage en forme d'ovni accroché à une montagne, vous avez probablement affaire à un altocumulus lenticularis qui se trouve dans l'étage moyen de la troposphère.
Et donc les cumulus seraient donc ceux qui sont le plus proche de nous, on va dire.
Tout juste, vous avez tout compris. Cela dit, c'est pas toujours facile de coller une étiquette sur un nuage. Les nuages, je vous l'ai dit, sont espiègles, mais certains sont même très rusés.
En plus.
Ah oui, tout à fait. Ils ont réussi à échapper à la vue des humains pendant quelque temps. Ils sont aperçus que très rarement, si bien qu'ils ont échappé pendant des années à l'Atlas mondial des nuages de l'OMM. Par exemple, dans la dernière édition de l'Atlas mondial des nuages, les experts ont réussi à capturer une nouvelle variété de nuages, l'Asperitas, qui se forme à la base des altocumulus ou des stratocumulus et qui donne au ciel un aspect de mer houleuse. C'est assez joli à regarder. Et puis, les nuages sont non seulement espiègles et rusés, mais farceurs aussi. Ils peuvent facilement changer d'apparence. Un cumulus médiocris a deux options en fonction des conditions atmosphériques. Soit il se défait et devient un cumulus fractis, soit il continue son développement pour devenir un bon gros cumulonimbus. Et à ce propos, le cumulonimbus est le seul genre de nuage qui règne sur les trois étages de la troposphère en même temps.
Ah bah oui, vu sa taille, c'est ce fameux nuage d'orage, quoi.
C'est le roi des nuages, un roi tonitruant qui est puissant, qui recèle de la glace, de la foudre et des trombes d'eau. Alors pour le reconnaître, c'est pas toujours évident quand on est juste au-dessous, mais si on le voit à l'horizon et qu'on est légèrement en hauteur, on peut voir sa partie basse qui ressemble à des amas, hein, ce chou-fleur un peu comme ça, et puis sa partie haute qui monte très très haut dans le ciel et qui s'aplatit, qui devient un peu plus douce ou qui prend carrément la forme d'une enclume. Et là, on a de fortes chances que les personnes qui se trouvent dessous essuient une sérieuse averse.
Mais en parlant d'averse, tiens, il y a quelqu'un qui a une question.
Est-ce qu'il va pleuvoir ce nuage ?
Ah.
C'est une bonne question. C'est une bonne question puisque tous les nuages ne donnent pas forcément de la pluie. Alors, en général, il faut savoir que le terme nimbus ou nimbo, attaché en suffixe ou en préfixe au nom des nuages, signifie porteur de pluie.
Comme dans cumulonimbus.
Exactement. Ou comme dans nimbostratus, qui produit aussi des précipitations. Alors, pour l'observateur lambda qui se trouve juste sous le nuage, c'est un peu difficile de savoir comment il s'appelle. Une indication nous est révélée par Philippe Jeanneret.
En général, le fait qu'un nuage soit très foncé signifie qu'il a une forte extension verticale. Or, l'extension verticale et la noirceur, c'est la signature des cumulonimbus d'orage. Donc, lorsqu'on voit qu'un nuage est très sombre, oui, on peut se dire les précipitations ne sont pas très loin. Mais lorsqu'il y a simplement de la grisaille ou même une grisaille assez forte, c'est pas la garantie qu'il va pleuvoir. Après, on peut avoir des surprises. Par exemple, lorsqu'il y a du stratus, on se dit c'est un nuage qui se forme avec les hautes pressions en hiver, donc a priori il devrait pas y avoir de précipitations. Et pourtant, lorsque ces stratus sont très denses, ils peuvent nous amener de la bruine, et donc il y a quand même quelques petites pluies.
Et vous nous disiez, Huma, que les nuages sont farceurs, qui se transforment, donc il y a peu de chances qu'on puisse prédire à coup sûr la pluie simplement en observant un nuage à un moment X.
Ce serait un petit peu comme prédire vos projets de la journée sur la base d'une simple photo. En fait, il faut suivre l'évolution des nuages pour prédire les précipitations. C'est ce que fait notamment Lionel Fontana de Météo Suisse.
Nos collègues météorologues observateurs à l'aéroport de Genève continuent toutes les 30 minutes de faire une observation des nuages, de leur quantité, de la hauteur de la base des nuages. Et pendant longtemps, c'était le seul moyen d'observer des nuages. Ensuite, il y a eu l'aviation qui a permis de prendre un peu de hauteur. Certains de mes collègues qui sont aujourd'hui à la retraite avaient la chance même de faire des vols pendant leur tour de service à Genève-Londres, Londres-Genève, pour décrire la couverture nuageuse depuis le haut. Aujourd'hui, avec les images satellites, on peut observer en continu la masse nuageuse depuis le haut, avec différents canaux, disons, d'observation. Il y a des canaux dits infrarouges, où à ce moment-là, on s'intéresse à la température des nuages, et puis on peut observer les nuages dans le canal dit visible. En gros, ce que l'œil pourrait percevoir si on était assis soi-même sur le satellite, qui se situe tout de même à 36 000 km d'altitude. Et là, ça permet d'avoir des images assez réalistes des masses nuageuses en formation et en déplacement. Il y a quelques années, on ne pouvait pas voir les brouillards la nuit depuis le satellite. On avait juste des images des brouillards deux jours dans le canal visible. Et puis dans le canal infrarouge, on voyait rien parce que les brouillards ont pratiquement la même température que le sol. Donc on n'arrivait pas à les distinguer. Aujourd'hui, en mélangeant ces différents canaux, on est capable de voir les brouillards la nuit et surtout de voir leur formation. Alors ça, pour moi, ça a été en tout cas une petite révolution sur la prévision à court terme. Et puis, pour connaître vraiment toute la, on va dire, la carte d'identité des nuages, il faut